Audiolib présente Une vie entre deux océans de M.L. Stedman, lu par Martin Spinayer. À la mémoire de mes parents. Première partie. Le 27 avril 1926. Le jour du miracle, Isabelle, agenouillée au bord de la falaise, arrangeait la petite croix de bois flotté que son mari venait de fabriquer. Un gros nuage solitaire traînaillait dans le ciel de cette fin d'avril qui s'étendait au-dessus de l'île en miroir de l'océan. Elle arrosa encore un peu, puis tassa la terre au pied du buisson de romarin qu'elle avait planté récemment. « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, » murmura-t-elle. L'espace d'un instant, son esprit lui joua des tours. Elle eut l'impression d'entendre des pleurs de bébé. Elle repoussa cette illusion et dirigea plutôt son regard vers un groupe de baleines qui remontaient la côte pour mettre bas dans des eaux plus chaudes. Elle refaisait surface de temps à autre à la faveur de grands coups de queue, telle une aiguille ondulant dans une tapisserie. Elle entendit à nouveau les pleurs, mais cette fois-ci ils étaient plus forts dans la brume de l'aube. Non. Ça ne pouvait pas être ça. Depuis ce côté de l'île, s'étendait l'immensité jusqu'en Afrique. Ici, l'océan Indien plongeait dans le grand océan austral, qui formait alors comme un tapis sans limite au pied des falaises. Par des journées comme celle-ci, l'eau lui paraissait si solide qu'elle avait la sensation qu'elle aurait pu marcher jusqu'à Madagascar sur cet azur. L'autre côté de l'île, tourmenté, donnait vers le continent australien, distant d'environ 150 kilomètres. Elle n'appartenait pas vraiment à cette terre, sans toutefois en être tout à fait émancipée. Elle était la plus haute d'une chaîne de montagnes sous-marines qui s'était élevée du fond de l'océan comme des dents sur une mâchoire déchiquetée, prête à dévorer tout navire égaré en quête de refuge. Comme pour se faire pardonner, l'île, Janus Rock, avait un phare dont le faisceau lumineux offrait une zone de sécurité sur 50 kilomètres à la ronde. Chaque soir, l'air résonnait du bourdonnement régulier de la lanterne qui tournait, tournait, tournait sans fin, avec constance, sans jamais blâmer les rochers, sans craindre les vagues, présente pour sauver des vies au besoin. Les pleurs persistaient. La porte du phare claqua au loin et la haute silhouette de Tom apparut sur la galerie. Il sortait pour observer l'île avec ses jumelles.
« Izzy, un canot » hurla-t-il en lui montrant la crique. « Sur la plage, un canot !»
Il disparut pour réémerger quelques instants plus tard en bas.
« On dirait qu'il y a quelqu'un dedans » cria-t-il.
Isabelle courut le plus vite possible à sa rencontre et lui tint le bras pour négocier la descente de l'étroit chemin pentu et accidenté qui menait à la petite plage.
« Il y a bien un bateau !» déclara Tom. « Et... oh ! Sapristi ! Il y a un type dedans, mais... »
La silhouette était immobile, effondrée en travers du banc. Et pourtant les pleurs perduraient. Tom se précipita sur le dinghy et tenta de réveiller l'homme, avant de fouiller l'espace du côté de la proue, d'où venaient les cris. Il en sortit un paquet enveloppé de laine. Un doux cardigan de femme couleur lavande emmitouflait un bébé hurlant.
Bon Dieu ! S'exclama-t-il. Bon Dieu, Izzy, c'est...
Un bébé ! Oh Dieu du ciel, Tom ! Tom, là, donne-le-moi !
Il lui tendit le petit paquet et tenta une fois encore de ranimer l'inconnu. Mais aucun pouls. Il regarda Isabelle qui auscultait la minuscule créature.
Il est mort, Iz. Et le bébé ?
Il va bien, apparemment. Ni blessure, ni contusion. Mais il est si petit,
dit-elle tout en se tournant vers le nouveau-né qu'elle berçait dans ses bras.
Là, là, tu es en sécurité maintenant, mon tout petit. Tu es sauvé, mon beau bébé.
Tom, immobile, regardait le corps de l'homme. Puis il cligna des yeux et les rouvrit pour s'assurer